Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine du midi sur Fréquence Mistral, en direct depuis Briançon ce mardi. Aujourd'hui, nous sommes avec deux comédiennes, musiciennes, artistes, Noémie Lamour et Jean-Cyan Pierre de la compagnie Mise à Feu. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors, vous êtes dans le Briançonnais parce que ce soir, et en fait, on va le dire, on en parlera tout à l'heure, mais vous avez déjà fait des spectacles, mais ce soir, c'est le spectacle grand public au Théâtre du Briançonnais, un spectacle qui s'intitule « Diva Syndicat ». Donc, c'est un spectacle-concert puisque vous retracez 1000 ans de musique au féminin. Il s'agit de deux divas syndicalistes, vous deux en l'occurrence, qui présentent avec humour 10 siècles de musique à travers des femmes musiciennes, compositrices, interprètes que vous faites découvrir ou redécouvrir au public en partant du Moyen-Âge à nos jours. Alors tout de même, avant de nous parler de ce spectacle, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur vous pour qu'on vous connaisse un peu mieux, qu'on sache qui vous êtes ?
Eh ben nous, on est la compagnie Mise à Feu. C'est une compagnie lyonnaise de théâtre et de musique qu'on a créée en mai 2021 à la sortie du Covid pour porter la production de Diva Syndicat, qui est notre premier spectacle.
Et vous, personnellement, en tant qu'artiste, vous voulez dire un mot ou
eh ben moi, je suis Noémie Lamour. Je suis metteuse en scène, chanteuse et musicienne depuis déjà une quinzaine d'années.
Et moi, je suis Jean-Cyan Pierre et je suis metteuse en scène, chanteuse et musicienne et comédienne depuis une quinzaine d'années également. Très bien. On est issus de la région lyonnaise.
De la région lyonnaise, ouais. D'accord. Et vous étiez déjà venue dans le coin ?
Alors moi, oui, parce que j'ai beaucoup, ça fait 10 ans que je viens dans le Briançonnais, parce que j'ai beaucoup travaillé avec la compagnie Les Passeurs, avec Lucie Luvourdan.
D'accord. Et donc, ce spectacle, Diva Syndicat, quelle est sa genèse ? Comment est-il né ?
C'est un spectacle qui arrive justement à la sortie du Covid, où on a eu quand même pas mal de temps disponible, vu que les théâtres sont restés fermés pendant un an et demi. Il y avait cette envie de travailler autour de la notion de matrimoine, donc c'est-à-dire le matrimoine musical, tout l'histoire commune qu'on pourrait avoir autour des œuvres de femmes. Et on n'avait jamais travaillé ensemble avec Jean-Cyan, et on avait quand même vraiment ce désir de lancer une collaboration entre nous. Et la réflexion autour de cette notion de matrimoine, elle a été vraiment bouleversée en 2017, quand il y a eu le mouvement MeToo en octobre 2017 qui a vu le jour, et voilà, qui a eu quand même des gros impacts dans nos vies personnelles et professionnelles, bien évidemment. Et voilà, il y a toute cette réflexion qui s'est amorcée à ce moment-là, le Covid qui nous a laissé un peu du temps pour travailler sur ce sujet, et puis voilà, l'envie de porter sur scène un message politique fort, tout en étant sur notre champ d'action à la fois musical et théâtral, et avec le cœur de ce qu'on aime aussi sur scène, c'est-à-dire beaucoup d'humour, parce qu'on pense que l'humour nous aide à nous habituer à des idées face auxquelles on a la résistance. Donc, de créer de la résistance, du coup.
Oui, après, c'est sûr que ça vient aussi d'un cheminement personnel, c'est-à-dire qu'avec Noémie, on a vraiment suivi un cursus de classique, d'enfants qu'on met au conservatoire et qui évolue au fil des ans dans cette institution. En fait, ça vient aussi d'une question que nous, on s'est posée, c'est-à-dire en tant que pratiquante de musique, quoi, c'est-à-dire musicienne, de dire, mais tiens, on a jamais joué de compositrice. Et surtout, on ne s'est jamais posé la question. On se dit, ah tiens, comment ça se fait qu'on ne joue pas de compositrice ? Il y a aussi le fait de se dire que moi, j'ai deux enfants. Et en fait, elle faisait à l'époque du violon et de la flûte traversière. Et en 2020, on continue à apprendre aux enfants Mozart, qui est très bien, hein, c'est super. Mozart, Bach, enfin les classiques. Et en fait, on ne leur transmet toujours pas en fait, des partitions composées par des femmes. Donc malgré le mouvement de société dont on pourrait dire bah, c'est bon, en fait, c'est bon, l'égalité, la prise de conscience est effective, en vrai, non. les enfants d'aujourd'hui continuent à apprendre ces compositeurs, certes très doués et charmants, mais en tout cas, nous, on estime qu'il y a aussi, c'est aussi très important de s'emparer des créations des compositrices, quoi.
Sans parler des biais sexistes qu'il peut y avoir autour des instruments de musique, c'est-à-dire le violon va être considéré comme un instrument plutôt féminin, là où la batterie va être considérée comme un instrument plutôt masculin. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec Gentiane, on joue des instruments qui sont considérés dans l'imaginaire collectif comme des instruments d'hommes, puisque nos instruments principaux sont, en ce qui me concerne, la contrebasse et pour Gentiane, le saxophone. Donc voilà, c'est pas des instruments qui, voilà, d'un point de vue généraliste, sont considérés comme des instruments de femmes. Moi, toute mon enfance, on m'a dit « t'es une fille, tu joues de la contrebasse, c'est bizarre ». Ben, je sais pas ce qui est bizarre, mais visiblement, c'est bizarre.
Et c'était donc déjà dans l'enfance, ce choix d'instrument. C'est pas vous, après, qui avez décidé de vous emparer de ces instruments?
Non, non, tout à fait. Nous, on a commencé dans l'enfance et ça nous semblait assez classique, en fait. Enfin, nous, c'est vraiment aussi cette question qui est arrivée à 35 ans et plus de se dire mais merde, je me suis jamais posé la question. J'ai jamais trouvé ça bizarre, en fait. De ne jouer que des compositeurs, c'est hyper bizarre. C'est comme de se dire tiens, j'ai lu que des bouquins de mecs, j'ai jamais lu un bouquin écrit par une meuf. Et ce qui nous trouble vachement, c'est de ne pas nous avoir posé nous-mêmes cette question, en fait, d'avoir trouvé ça complètement normal, cette espèce de sexisme intégré et qu'on porte et que du coup par conséquent on transmet tant qu'on ne nomme pas. Et c'est vraiment un rapport de soi à soi qui nous a aussi déclenché cette envie à la fois de parler aux femmes et aux hommes de notre âge et plus, mais surtout de parler aux générations d'après qui seront les citoyens de demain, parce que c'est un spectacle tout public, c'est un vrai tout public Diva Syndica à partir de 8 ans. Et du coup, nous, on a vraiment foi aussi. On se rend compte que chez les plus jeunes, en tout cas avec les primaires, l'imaginaire, il est carrément ouvert. Donc, on a toutes nos chances de pouvoir faire advenir un monde un peu meilleur. Là où, à partir du collège, c'est déjà bien plus fermé, quoi.
Oui, et puis la force aussi de votre spectacle, c'est de montrer aussi, de donner les noms de compositrices, de musiciennes. Parce qu'on pourrait vouloir jouer de la musique composée par une femme, mais en fait on saurait pas vers qui aller parce qu'on n'a même pas les noms, même si on connaît pas, on n'a jamais écouté Vivaldi, souvent on a entendu le nom par exemple.
Tout à fait.
Donc ça a dû être un énorme travail pour vous aussi de recherche. Comment vous avez mené ce travail là?
Alors, on doit dire quand même que la situation, elle a énormément évolué entre le moment où nous, on crée le spectacle et on commence à réfléchir sur cette question, c'est-à-dire en 2020 et en 2025, là où on se situe à présent, parce qu'il y a quand même pas mal d'ouvrages de vulgarisation qui sont parus. Et là où, effectivement, au moment où nous, on commence à chercher, ben, on ouvre très bêtement un livre qui s'appelle « Histoire de la musique », dans lequel, en fait, on va trouver que des compositeurs hommes blancs européens, nés entre 1500 et 1980. Donc déjà, le titre est faux. Ça ne devrait pas s'appeler « Histoire de la musique », ça devrait s'appeler « Histoire de la musique européenne masculine ». Et là, du coup, entre 1500 et 1980, et là, le titre serait juste. Et il y avait des ouvrages qui existaient, mais c'était vraiment des ouvrages de musicologie sur des compositrices très précises, etc. Voilà, c'était pas très facile d'accès. Du coup, on s'est tourné vers un musicologue qui s'appelle Jérôme
Thiébaud,
merci, qui venait à l'époque de sortir en collaboration avec Elisabeth Frison un ouvrage qui s'appelle « Histoire de la musique occidentale ». Donc déjà, dans le titre, il y avait quelque chose qui se rapprochait de nous. Cet ouvrage traitait de la musique depuis le paléolithique. Donc déjà, c'était super intéressant d'inclure dans cette démarche d'histoire de la musique des choses dont certes, on ne va pas forcément avoir de traces écrite parce qu'on n'a pas de partition, on n'a pas d'enregistrement, bien évidemment. Mais par contre, on sait qu'on a retrouvé des objets qui étaient visiblement des objets qui permettaient de faire de la musique. Voilà, des considérations d'ordre anatomique, c'est-à-dire que les hommes préhistoriques, à un moment, il y a un larynx qui se construit et qui fait qu'ils vont pouvoir produire des sons différents des animaux et potentiellement se mettre à chanter, etc. Jérôme et Elisabeth, dans leur ouvrage, ils considèrent vraiment les compositrices et les musiciennes comme des personnages historiques. Et donc, ils leur font une bonne place dans le livre, même si, bien évidemment, on a toujours beaucoup moins de notices biographiques sur des compositrices du XVIIe siècle par rapport à d'autres compositeurs, quoi.
Mais c'est vrai qu'il a fallu qu'on aille voir, du coup, un scientifique pour qu'il nous dise oui, parce qu'en fait, nous, on lui a juste posé la question de lui dire, mais en fait, elles existent, il y a eu des compositrices. Et on nous a dit, ouais, il y a eu des compositrices, c'était des stars, elles étaient extrêmement connues. Donc, nous, ça a été, en fait, ça a été des révélations choc sur choc. Parce que souvent, ce qu'on se dit, c'est ouais, mais bon, ça se trouve, elles étaient composées dans leur chambre, elles n'étaient pas du tout connues. Non, c'était des stars, en fait, elles étaient extrêmement connues. Et on a découvert des personnalités de dingue, avec des vies de dingue. Mais nous, on a dû faire des choix, parce que ce spectacle, il fait 55 minutes pour les enfants et en tout public, il est plus autour d'une heure cinq. Et du coup, on pouvait pas mettre toutes les femmes qu'on a rencontrées. Donc, il a fallu qu'on choisisse au niveau des esthétiques. C'est un spectacle qui mêle plein d'esthétiques musicales aussi très différentes. Et donc, voilà, c'est ce scientifique qui nous a aiguillé sur des portraits de femmes à choisir.
Sans compter que vraiment, on n'est pas du tout que sur le champ de la musique classique.
Non.
On est aussi vraiment sur le champ de la musique du XXe siècle. Et comment il y a tout un tas de femmes qui sont précurseuses dans tout un tas de genres. Hein, dans le jazz, dans le disco, dans la pop. Et on ne voulait pas mettre ça de côté du tout.
Et comment vous avez sélectionné ? Alors, qu'est-ce que tu parlais d'esthétique tout à l'heure ?
Bah déjà, les esthétiques, elles ont eu une grande importance parce qu'on n'allait pas faire 1000 ans. En fait, c'est du coup 1000 ans de musique différente. Donc déjà, si on avait 4 ou 5 femmes à la Renaissance, c'était mort. Donc on a dû choisir en fonction aussi de la trame narrative qu'on avait envie de construire. Nous, ce n'est pas un spectacle qui est chronologique. On ne commence pas en 1100 et puis on ne finit pas en 2025.
Donc, c'est pas un catalogue.
C'est pas un catalogue. Nous, on a voulu éviter. Donc on a dû choisir à la fois en fonction de l'esthétique, en fonction de ce qu'on voulait dire, en fonction de l'apport dramaturgique sur notre spectacle.
Et comment vous avez mis en scène, puisque vous parliez d'humour, vous avez de la partie théâtrale, vous jouez aussi sur scène
tout à fait.
Ensemble. Comment vous avez réussi à articuler tout ça, votre travail de mise en scène ?
En se trompant, déjà.
On avait quand même bien en tête différents tableaux qu'on avait envie d'évoquer. C'est-à-dire qu'on savait qu'on avait envie de parler de l'invisibilisation, comment l'invisibilisation, elle arrive. Donc, le spectacle, en fait, c'est pas... On n'est pas là pour asséner nos vérités. On pose que des questions. C'est-à-dire que comment, avec les spectateurs, on va arriver à un constat général à partir de toutes les questions que nous, on s'est posées au fil de la création. Et aussi parce qu'on est persuadé que notre message, il passe vachement mieux si on se pose toutes et tous ensemble des questions, plutôt que si on arrive en disant « la vérité, c'est ça et c'est nous qui avons raison ». Donc on avait quand même déjà cette construction dramaturgique vraiment en tête, et après on avait des séries de tableaux qu'on avait en tête, c'est-à-dire on voulait parler du fait que les femmes, elles peuvent exister éventuellement si elles sont les femmes de, les sœurs de, les filles de. Donc ça faisait un premier tableau. On avait un tableau où on savait qu'on voulait parler, les femmes, elles ont le droit de monter sur scène à l'opéra, mais par contre que pour faire des rôles tragique au possible, c'est-à-dire que leur destin, c'est la mort, globalement. Voilà. Ou alors d'être vraiment très méchante. Donc ça faisait un deuxième tableau. On avait quand même tout un tas de... Comment on est sur ce rapport au jeune public, comment on allait amener les jeunes à adhérer à notre message très rapidement. Donc, il fallait qu'on mette une figure que eux ils allaient connaître dans le spectacle, en l'occurrence Aya Nakamura, et comment on allait la faire collaborer avec... la plus ancienne femme de notre répertoire, c'est-à-dire Hildegarde de Bingen, qui est la première compositrice dont on a retrouvé une partition écrite. Et c'est des partitions qui datent du XIIe siècle, donc on est vraiment sur de la musique médiévale. Voilà, donc on crée une rencontre entre Aya Nakamura et Hildegarde de Bingen, ce qui permet aux spectateuristes de tout de suite d'adhérer en fait à la proposition qu'on leur fait, parce qu'on n'est pas là pour dire il y a une musique qui est bien, une musique qui n'est pas bien. On est là pour dire voilà, on va parler des femmes dans la musique. Et il n'y a pas de jugement d'ordre esthétique, quoi.
Et vous avez des retours du public ? Vous faites des échanges,
des bords de scène ?
Des bords de scène.
Oui, on fait des bords de scène, on échange avec eux. Puis de toute manière, c'est un spectacle qui est assez direct, donc il n'y a pas de quatrième mur. On est en rapport direct avec les spectatrices. Donc ça se passe bien.
Et alors, les retours ?
Ça se passe bien.
Hier, il y a une enfant qui nous a dit que c'était le meilleur spectacle qu'elle avait vu de sa vie. C'était très sympa. Ça nous a fait très plaisir.
Oui, ça se passe très bien. De toute manière, nous, on n'est pas là pour... notre message, c'est pas de dire que que Mozart, la clique de Chopin et tout, c'est nul. Enfin, nous, on aime beaucoup. Mais c'est juste, nous, on pose la question, en fait, de se dire... En fait, on part d'un constat. À partir du moment où on part d'un constat et pas d'un sentiment, c'est pas, tiens, j'ai l'impression que quand même... Non, Enfin, je veux dire, le constat, il est là. Si vous demandez à vos auditeurs et vos auditrices qui nous écoutent, est-ce que, tiens, posez-vous la question, est-ce que vous connaissez 3 compositeurs? Bah là, dans, vous êtes en train d'écouter la radio, vous êtes là, ouais, bah, c'est sûr, Chopin, Vivaldi. Et pourtant, on n'est pas des mélomanes.
Debussy, Mozart.
Voilà. Tout le monde les connaît, en fait. Et dans des classes, on dit, tiens, même les enfants, en fait, nous disent, ah bah oui, bah, je connais Beethoven et tout. Et si on vous pose la question de savoir, connaissez-vous une compositrice? Alors là, déjà, c'est plus compliqué. Puis on va nous sortir, bah ouais, il y a Céline Dion. Ok, une compositrice avant 1930. Et c'est ça qui nous trouble, en fait. Moi, enfin, on parle de cette question, enfin, clairement, enfin, collective. Et comment ça se fait? Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est juste se dire, bah, tiens, si je consomme 50% d'œuvres artistiques écrites, ou composées, ou peintes, ou créées par des femmes, qu'est-ce que ça donne, en fait, à voir? Bah, ça, on ne sait pas.
Je pense que le message principal qu'on prône au-delà, nous, on s'est consacré à la musique parce qu'en fait, on est musicienne. Mais on aurait pu faire un spectacle sur les femmes scientifiques, oui. Sur les femmes reines,
le
sur
cinéma.
Les princesses, sur les femmes dans le cinéma, bref. Oui. Ce qui nous intéresse, c'est comment aujourd'hui, on prend conscience que nos imaginaires, il faut vraiment les révolutionner et inclure la création féminine. Voilà, à 50-50, qu'est-ce que ça produit sur le monde si 50% des séries que vous consommez, des émissions de radio que vous écoutez, des livres que vous lisez, des articles que vous lisez, ils sont produit par des femmes. Qu'est-ce que ça va changer sur votre vision du monde?
C'est-à-dire consommer.
On n'a pas la réponse.
Consommer ce qui est créé par 50% de l'humanité, enfin, tout simplement. Donc voilà, c'est une question de vivre ensemble, en fait. Et comment ça nous permettrait sans doute de vivre vachement mieux et de voir venir les années qui arrivent avec beaucoup plus de légèreté.
Ce qui nous interpelle aussi, c'est comment les femmes, elles ont de la facilité à s'identifier à des caractères masculins. Là où, pour les hommes, c'est beaucoup plus difficile. Mais bon, nous, les femmes, on a été habituées à s'intégrer dans le « il » au masculin pluriel, le masculin pluriel qui l'emporte sur le féminin pluriel. Ouais. Et du coup, il y a des études qui existent où un homme, par exemple, quand il est dans un jeu vidéo qui doit choisir un avatar, il choisira plus facilement un avatar de hérisson plutôt qu'un avatar de femme. Voilà, oui. Plus de facilité à
un hérisson mâle, évidemment.
Ouais. Un animal.
Parce que si c'est un hérisson femelle...
Ça, c'est pas des choses qu'on invente.
Mais c'est statistique, en fait. Ouais. Et c'est là que ça pose un vrai problème, en fait.
Oui, vous avez dû en découvrir des choses.
Après, on avait quand même quelques indices, hein, oui. On va pas vous mentir.
Et alors, justement, puisqu'il va bientôt être temps de vous libérer, puisque vous avez un spectacle cet après-midi.
Tout à fait.
Vous auriez on va peut-être pas s'étaler, mais non, justement, de compositrices, musiciennes à nous donner pour celles et ceux qui ne pourront pas voir le spectacle.
Alors, moi, j'en ai une que j'adore, mais qui fait pas partie du spectacle.
Bah, c'est super.
Et qui s'appelle Hélène de Montgeroux, et qui a été la première prof de piano classe mixte en 1793, grâce à la Révolution, les conservatoires qu'on critique un petit peu dans le spectacle ont été créés. Et cette femme, elle a eu une vie incroyable. Elle s'est mariée 3 fois. Enfin, elle a sauvé sa tête en faisant une variation au clavecin de la Marseillaise. Hélène de Montgeroux, allez-y plonger, c'est magnifique.
Et moi, je vous conseillerais, en tout cas pour des compositrices qui sont considérées comme classiques, de découvrir Germaine Taillefer, qui est une compositrice du XXe siècle, dont on a malheureusement perdu une très grande partie de l'œuvre, ce qui est absolument délirant parce que c'est des œuvres qui n'ont même pas 100 ans et qui ont vraiment disparu. Mmh. Germaine Taillefer, c'était pourtant une femme très célèbre à son époque, elle faisait partie du groupe des 6, etc. Voilà, donc c'est aussi quelle attention on donne à l'œuvre féminine. Ben... pas beaucoup.
On peut les trouver, je sais pas moi, sur YouTube, sur Internet.
Bon courage.
Alors, il y a quand même dans votre région, hein, une association qui s'appelle Présence Compositrice, qui est menée par une femme extraordinaire qui s'appelle Claire Baudin et qui propose en ligne une plateforme qui s'appelle Demander à Clara, qui est accessible et gratuite, qui va référencer vraiment des centaines de milliers d'œuvres écrites par des compositrices dont on va peut-être pas toujours avoir la possibilité d'écouter la musique ou de retrouver les partitions. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment une attention qui est en train de monter sur ces sujets-là et surtout des femmes incroyables qui s'emparent du sujet et qui développent des trésors d'imagination et de temps, de productivité, etc. pour mettre ce sujet en avant.
Très bien. Et pour vous suivre, puisque vous jouez donc cet après-midi pour les scolaires, ce soir au Théâtre du Briançonnais pour le 05 des Hautes-Alpes.
Tout à fait.
Mais on sera à Miramas aussi au mois de juin, le 24 juin. Dans un festival. Et puis on sera tout cet été, enfin tout le mois de juillet en tout cas, au Festival d'Avignon, du 5 juillet au 26 juillet, tous les jours sauf le mardi, à 16h05 à la Syrie.
Très bien, et bien merci à toutes les deux. Donc c'était la compagnie
Mise à feu,
je vais y arriver, pour le spectacle Diva Syndicat, que j'en verse pas les deux. Merci d'être venu parmi nous malgré cette journée un petit peu chargée. Je vous laisse nous quitter. Et pour vous, auditeurs et auditrices, on écoute tout de suite une musique de Madonna que vous devez reconnaître ou découvrir, on verra bien, Hung Up. Et ensuite, on retrouve Anaïk pour la sélection des coups de cœur littéraires.
Merci.
Merci.
Time goes by so slowly. Time goes by so slowly. Time goes by so slowly. Time goes by so slowly.